culture populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Zine, chapitre 4. La tyrannie, c'est la tyrannie. Première partie. Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d'Amérique firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des deux siècles suivants. Ils imaginèrent qu'en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée États-Unis, ils seraient en mesure de s'emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs politiques détenus jusque-là par les protégés de l'Empire britannique. Du même coup, ils pourraient contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée. Il faut admettre que, sous cet angle, la révolution américaine est bien une idée de génie et que les pères fondateurs méritent l'extraordinaire dévotion dont ils sont l'objet depuis des siècles. N'ont-ils pas, en effet, inventé le système de contrôle national le plus efficace de l'époque moderne et révélé aux futures générations de dirigeants les avantages d'une savante combinaison de paternalisme et d'autorité? Depuis la révolte de Bacon, en 1760, les colonies avaient été le théâtre de 18 soulèvements destinés à en renverser les gouvernements. De 6 révoltes d'esclaves, de la Caroline du Sud à New York, et d'une quarantaine d'émeutes de toute nature. Après 1763 et la victoire de l'Angleterre sur la France dans la guerre de 7 ans, plus connue aux États-Unis sous le nom de guerre contre les Français et les Indiens, qui eut pour effet d'expulser cette dernière d'Amérique du Nord, les élites coloniales les plus ambitieuses n'avaient plus rien à craindre des Français. Il ne leur restait donc que deux rivaux sur le terrain, les Anglais et les Indiens. Afin de s'allier les Indiens, les Britanniques leur avaient garanti que les terres indiennes situées à l'ouest des Appalaches resteraient à l'abri de la convoitise des Blancs. C'est la proclamation de 1763. Après la défaite des Français, le gouvernement britannique pouvait fixer son attention sur les moyens d'affirmer son autorité sur les colonies. En outre, il fallait absolument trouver des fonds pour rembourser cette guerre. Les colonies étaient toutes désignées pour cela. Les échanges avec les colonies avaient d'ailleurs pris une place de plus en plus importante dans l'économie britannique. Et se révélait également de plus en plus rentable. De 500 000 livres en 1700, on était passé à 2 800 000 livres en 1770. Dans une telle situation, les élites américaines ressentaient évidemment moins le besoin de s'appuyer sur l'autorité britannique, tandis que l'Angleterre pouvait difficilement se passer de la richesse des colonies américaines. Tout était en place pour qu'éclate le conflit. La guerre avait apporté la gloire aux généraux, et la mort aux simples soldats, la fortune aux négociants et le chômage aux miséreux. Durant la campagne de 1776, pour l'élection d'une convention chargé d'élaborer une constitution pour la Pennsylvanie, un comité de soldats appela les électeurs à s'opposer aux intérêts des individus immensément et exagérément riches, qui sont tout à fait décidés à ériger des barrières entre les classes sociales. Ce comité de soldats rédigea pour la Convention une déclaration des droits qui proclamait abandonner une part excessive des richesses aux mains d'une poignée d'individus représente un danger pour les droits et nuit à l'intérêt général et à l'humanité tout entière. Aussi, tout État doit-il se donner le pouvoir légal d'empêcher l'édification de telles fortunes. Les campagnes, où vivait tout de même la majorité de la population coloniale, connaissaient un conflit similaire opposant pauvres et riches. Un conflit que les élites politiques manipulaient pour mieux mobiliser la population contre l'Angleterre, promettant aux pauvres, en colère, de maigres bénéfices, tandis qu'eux-mêmes se tailleraient la part du lion. Les émeutes des fermiers dans le New Jersey des années 1740 et leurs soulèvements au cours des années 1750 et 60 dans la vallée de l'Hudson, État de New York, comme ceux qui, au nord-est de l'État de New York, entraînèrent la création de l'État du Vermont, étaient bien plus que de simples émeutes sporadiques. Il s'agissait en fait de mouvements sociaux durables, parfaitement organisés, qui établirent même de véritables contre-gouvernements. Toute cette effervescence visait les grands propriétaires terriens, mais ces derniers ne résidant pas habituellement sur leurs terres, les émeutes se retournaient contre les fermiers à qui ils les avaient loués. En 1776, à New York, un témoin comparaissant au procès de l'un des rebelles déclara que les fermiers chassés par les propriétaires terriens avaient un titre de possession légale, mais qu'ils ne pouvaient pas se défendre devant une cour de justice parce qu'ils étaient pauvres, et que les pauvres étaient toujours opprimés par les riches. Les acteurs de la révolte de Green Mountain, conduits par Ethan Allen, se présentaient comme de pauvres gens, fatigués de vivre dans un pays sauvage, et regardaient leur adversaire comme un mélange d'hommes de loi et autres gentilshommes avec tout leur accoutrement, leurs bonnes manières et leur petite minauderie à la française. Les petits fermiers de la vallée de l'Hudson, comme les rebelles de la Green Mountain, s'en remirent aux Anglais pour les défendre contre les grands propriétaires américains. Les élites coloniales indépendantistes, inquiètes de voir les fermiers pauvres se rapprocher des Anglais, adoptèrent une stratégie politique destinée à rallier les populations rurales américaines. À Boston, les revendications économiques des classes les plus défavorisées, alliées à un ressentiment violent contre les Anglais, explosèrent en émeutes populaires. Les chefs indépendantistes étaient à la fois désireux de diriger cette violence populaire contre l'Angleterre et soucieux de la contenir afin d'en limiter les exigences. À cette époque, 10% des contribuables de Boston détenaient 66% des actifs imposables de la ville, alors que 30% de la population imposée n'avait en fait aucun bien imposable. Ceux qui ne possédaient rien ne pouvaient pas voter. Et, comme les Noirs, les femmes et les Indiens n'avaient pas non plus le droit de participer aux assemblées municipales. Parmi eux, les marins, les ouvriers à la journée, les apprentis et les serviteurs sous contrat. Lorsque le Parlement britannique tenta à nouveau de taxer les colonies, mais cette fois par un ensemble de droits d'importation sur certains produits qui, pensait-on, ne soulèveraient pas une aussi vive opposition, l'élite coloniale organisa des boycotts. L'enrôlement forcé et le cantonnement des troupes pratiqués par les Britanniques étaient particulièrement odieux aux marins et aux ouvriers. Après 1768, 2000 soldats furent cantonnés à Boston et eut lieu de fréquentes escarmouches entre la foule et les soldats. Ces derniers enlevaient le travail aux ouvriers, alors qu'il était déjà difficile d'en trouver. Les ouvriers artisans et les petits commerçants perdirent leur emploi et virent leur affaire péricliter à cause du boycott des produits britanniques. En 1769, un comité vit le jour à Boston pour envisager les mesures qui permettraient d'employer les pauvres de la ville, dont le nombre et les difficultés s'étaient accrus en raison de la crise du commerce et des échanges. Le 5 mars 1770, des plaintes émises par les cordeliers contre les soldats anglais qui leur prenaient leur travail provoquèrent une bataille rangée. La foule se réunit devant les bureaux de la douane et commença à provoquer les soldats qui finirent par tirer, tuant Crispus Attucks, un ouvrier mulâtre, et quelques autres. Cet événement est plus connu sous le nom de « Massacre de Boston ». Rapidement, le ressentiment contre les Anglais s'exaspéra et la colère éclata lorsque 6 soldats anglais furent finalement acquittés et 2 autres condamnés à être marqués au fer rouge sur le pouce et chassés de l'armée. John Adams, avocat des soldats britanniques, décrit ainsi la foule présente le jour du massacre. Un ramassis hétéroclite de coquins, de nègres, de mulâtres, de bons à rien, d'irlandais et de matelots apatrides. Près de 10 000 personnes assistèrent aux obsèques des victimes du massacre, sur une population totale de 16 000 environ. Après quoi, les Anglais retirèrent leurs troupes de Boston et tentèrent de calmer la situation. Des émeutes contre l'enrôlement forcé avaient déjà eu lieu dans les années 1760 à New York et à Newport, Rhode Island, où 500 marins, des adolescents et des noirs, se soulevèrent après 5 semaines d'une campagne d'enrôlement forcé menée par les Britanniques. 6 semaines avant le massacre de Boston, des affrontements avaient opposé marins et soldats anglais à New York, faisant 1 mort parmi les premiers. En Virginie, la bourgeoisie cultivée était persuadée qu'il fallait entreprendre quelque chose afin de persuader les couches sociales défavorisées de rallier la cause révolutionnaire et de reporter leur colère contre les Anglais. Dans son journal intime, un Virginien écrit au printemps 1774 « La plus basse classe de la population est très excité par les récits que l'on fait des événements de Boston. Nombre de ses membres attendent qu'on les enrôle et qu'on leur ordonne d'aller combattre les Anglais. Ne prêtez pas oreille à ceux qui tentent de nous diviser, mais donnons-nous, au contraire, fraternellement la main. » C'était là une question pour laquelle les talents rhétoriques de Patrick Henry, l'un des participants au premier congrès continental de 1774, était merveilleusement approprié. Comme Riss Isaac le fait remarquer, il était intimement lié au cercle bourgeois, mais il parlait une langue que les blancs les plus pauvres de Virginie pouvaient comprendre. Edmund Randolph, un ami de Henry, disait, en parlant de son style, qu'il était tout de simplicité, voire de rudesse. Ces longues pauses, qui faisait parfois craindre que l'attention du public ne se porte ailleurs, la ravivait au contraire en éveillant la curiosité. Les discours de Patrick Henry indiquaient le moyen de soulager les tensions existantes entre classes défavorisées et classes fortunées de Virginie en les unissant contre les Anglais. Il s'agissait de trouver un langage qui inspirât tous les milieux, assez réaliste dans l'énumération des revendications pour provoquer la colère du peuple contre les Anglais et, néanmoins, suffisamment vague pour éviter le réveil des conflits de classe au sein du parti des révoltés. En outre, il devait être assez exaltant pour forger un sentiment patriotique susceptible de fédérer l'ensemble des composantes du mouvement révolutionnaire. Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d'Amérique firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des deux siècles suivants. Ils imaginèrent qu'en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée États-Unis, ils seraient en mesure de s'emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs politiques détenus jusque-là par les protégés de l'Empire britannique. Du même coup, ils pourraient contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.